et on bouscule les habitudes. Donc, puisqu'on vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, les journées véganes sur Scilab, c'est maintenant.
Je dois vous laisser.
Allez, s'il vous plaît, docteur. Il y a eu quoi que ce soit d'autre, genre un truc dont on aurait pu parler entre nous, peut-être un endroit où on voulait aller ?
Scilab.
La radio sauvage.
Ce samedi 12 octobre donc, de 11h à 18h, on pourra retrouver Place Hoche à Rennes, une vegan place. Alors pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter votre association ?
Marie.
Oui, eh bien moi je co-gère l'antenne L214 de Rennes. Donc L214 éthique et animaux, c'est une association qui est nationale. Nous luttons contre l'exploitation des animaux, notamment dans les élevages, mais aussi plus largement pour l'aspect vestimentaire, cosmétique et divertissement.
Morgane, peut-être ?
Bonsoir. Alors nous, c'est l'association des petits corrigans, c'est une association de protection animale. Nous récupérons des animaux abandonnés, maltraités, souvent les chats, les chiens et les nouveaux animaux de compagnie, donc lapins, cochons d'Inde. Et on aide également tous les animaux qui en ont besoin dans la mesure du possible. On travaille sur Rennes, mais également autour, dans toute l'île et Vilaine et les départements alentours.
Et Olivier, pour le CRPEA, voilà.
C'est ça. Moi, donc, je suis militant au CRPEA, donc le collectif rennais pour l'égalité animale. C'est un collectif antispéciste et on travaille principalement sur Rennes en partenariat entre guillemets avec la mairie, etc.
Peut-être du coup, pour commencer, revenons sur ces fameuses journées véganes. On a pu entendre le terme de journée végane et de vegan place. C'est quoi la différence, Marie ?
Alors moi, journée végane, j'en ai jamais entendu parler. Par contre, vegan place, c'est des événements qui sont spécifiques à l'association L214. Donc c'est des événements qui ont lieu partout en France, à différentes périodes de l'année, à Bordeaux, à Nantes, à Paris, chez d'autres antennes. Et donc c'est une journée où on va créer un village associatif avec des collectifs, des associations, de la restauration sur place. Et tous les intervenants qui sont présents, en fait, ont pour point commun la protection animale, la défense des animaux, l'antispécisme, le véganisme, voilà. On se regroupe sur cette idéologie-là.
Justement, ce village associatif, vous le définissez avec trois mots-clés, la paix, le partage et l'éthique.
Oui.
Pourquoi ces mots-là, précisément ?
Alors, l'éthique, parce qu'on amène les gens à réfléchir sur l'impact qu'a leurs actes au quotidien. On souhaite les informer pour qu'ils puissent se diriger vers une consommation plus éthique. On a envie de faire ça de manière paisible, d'où le mot « paix ». Puisqu'on n'appelle pas du tout à la violence, on est beaucoup dans l'accompagnement à la bienveillance. Et convivialité, parce que c'est un moment qu'on partage tous ensemble, c'est ouvert aux enfants, aux familles, c'est une journée très, très positive.
C'est quoi l'intérêt, ou en tout cas l'objectif de mettre en place ce type de journée à Rennes pour le cadre de L214, ou même d'y participer pour vous, pour les collectifs, ou Marie, c'est quoi l'intérêt de mettre en place ça à Rennes ?
Eh bien, l'objectif, il est double. Il est d'abord d'informer les personnes qui ne sont pas encore informées. En fait, on va les informer sur différentes questions, on va leur montrer quel est le problème et comment eux peuvent agir tous les jours pour résoudre ce problème-là. Et l'objectif, c'est aussi pour les personnes qui sont déjà sensibilisées d'être sur un lieu où ils peuvent élargir, disons, leur sensibilisation et passer un bon moment aussi avec des personnes qui ont les mêmes convictions que les leurs.
Oui, Morgane.
Alors, nous, en tant qu'association de protection animale, vous demandiez pourquoi on y participe. L'intérêt, pareil, il est double, sensibiliser les gens, que ce soit les adultes, mais également les enfants, parce que ce sont les générations futures, à la protection des animaux, au respect de l'animal. Et le deuxième objectif, réellement, c'est de faire parler également de l'association, de nous faire connaître, récupérer éventuellement des adhérents, des donateurs, des familles d'accueil, surtout, j'expliquerai plus tard ce que c'est exactement. Mais voilà, nous faire connaître et protéger tout le monde, en fait.
Olivier, pour le CRPEA ?
Eh bien, nous, c'est pareil, dans le sens où ça nous permet aussi de nous faire connaître, mais ça permet aussi de montrer aux personnes qui vont venir que les actions qui se font en direction des animaux ne se font pas qu'à un niveau national, elles peuvent aussi se faire à un niveau local, et qu'à un niveau local, ça bouge, et que c'est possible de s'investir juste dans sa ville, déjà, pour faire bouger les choses pour les animaux, quoi.
Depuis 2014, du coup, vous organisez ce type d'événement à Rennes. Depuis chaque année ou quasiment chaque année, de nouvelles journées vegan place ont lieu dans la capitale bretonne. Vous trouvez que les gens sont de plus en plus sensibles à ces questions de société, celles du bien-être animal notamment et du véganisme ?
Alors oui, je trouve que les gens sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. Mais les collectivités ont de plus en plus de mal aussi à nous accueillir. On a eu énormément de difficultés à organiser cet événement-là. Il y en a deux qui étaient en prévision l'année dernière qu'on a dû annuler par la mairie et la préfecture. Donc on a aussi du mal à faire notre place. On a du mal à trouver des partenariats nécessaires pour organiser ces événements-là.
Et à cause de quoi, justement ?
Je pense que ça dérange du point de vue politique. Je pense que ça dérange.
Et L214, c'est une association connue notamment pour ses vidéos choc, montrant des animaux en souffrance dans les élevages ou les abattoirs, par exemple. Alors pourquoi ce qui peut choquer aujourd'hui ne choquait pas jusqu'à encore peu de temps ?
Eh bien parce que c'était L214 a permis de rendre cette violence visible. Et ce ne sont pas les images qui sont violentes, c'est la réalité qui est violente. Et nous, on montre cette violence-là par nos images.
Non, moi, je voulais juste rajouter qu'en fait, c'est pas choquant aujourd'hui. Ça a toujours été choquant, en fait. C'est juste que ces images-là, comme tu le dis très bien, Marie, en fait, L214 a permis de les rendre visibles. Et donc, en fait, finalement, la violence qui était dans les abattoirs, aujourd'hui, elle est devant les yeux de tout le monde. Donc, c'est choquant parce que ça l'était déjà avant, mais qu'on ne le voyait pas, quoi.
Pour prendre peut-être l'autre part, on va dire, il y a de plus en plus d'agribashing en ce moment sur les réseaux sociaux. L'agribashing, on pourrait définir comme cette haine ou ce défoulement de certains utilisateurs contre des agriculteurs ou plus largement le système agricole d'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs et ils se disaient jusqu'ici dépités à cause de ça, cet agribashing. Pourquoi aujourd'hui il y a une telle haine de l'agriculteur sur Internet en tout cas ?
Alors je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'on ne milite pas contre les éleveurs, ni contre les agriculteurs, ni contre les employés d'abattoir. On milite pour les animaux et c'est fondamentalement différent. L214 est une association qui va au contraire accompagner les éleveurs qui sont désireux de changer leur manière de produire. Et effectivement, oui, il y a des militants qui sont, mais que ce soit chez L214 ou d'autres associations, il y a des militants qui se déchargent un peu contre ces personnes-là parce que c'est de la colère en fait qu'on ressent et c'est les acteurs qu'on a directement devant nous. C'est pas une excuse, c'est pas une bonne raison. Mais je pense que voilà, dans chaque mouvement, il y a des personnes qui sont un peu emportées par leur colère et qui ont besoin de aussi se décharger sur des personnes qu'ils ont directement en face d'elles plutôt qu'un système.
De nombreux, pour finir sur ce sujet, de nombreux professionnels agricoles déplorent également certaines intrusions dans des exploitations agricoles. Il y a déjà eu quelques confrontations entre des militants et des agriculteurs. Aujourd'hui, la colère chez certains agriculteurs est telle qu'ils sont prêts à en découdre, m'ont-ils dit, s'ils tombent nez à nez face à une personne qui s'introduit sur leur exploitation. Est-ce qu'on peut aussi, d'une autre manière, on peut aussi comprendre ces agriculteurs-là ou...
Je pense que c'est des personnes qui sont dans ce système-là depuis longtemps. On remet en cause tout leur mode de travail, leur manière de penser. C'est aussi ultra violent pour eux, hein, de leur dire maintenant, ce que vous faites, c'est violent, c'est difficile aussi pour eux. Mais il faut savoir que la violence, elle est aussi des deux côtés. Nous, on a des militants qui se font agresser, qui se font casser leur voiture. Enfin, on a... Voilà, c'est comme dans tout combat politique, il y a des moments de confrontation qui ne sont pas forcément constructifs, mais effectivement, ça existe.
Pour revenir sur, un peu plus sur le local, depuis un peu plus d'un an, les cantines des écoles de Rennes Métropole proposent un repas végétarien par semaine. Est-ce que vous êtes satisfait de cette mesure ? Est-ce que vous souhaiteriez que ça aille plus loin ? Je m'adresse à Marie ou Olivier peut-être.
Oui, c'est une bonne chose déjà, c'est toujours une avancée. Après, évidemment, on aimerait que ça aille plus loin. Donc c'était végétarien que tu as dit, c'est ça, hein ?
Végétarien,
repas végétarien, je ne me trompe pas. C'est bien un repas végétarien, mais l'idéal ce serait un repas sans produits animaux, hein, donc un repas végétalien. Du coup, on travaille avec la mairie pour que ces choses-là avancent aussi au CRPEA. Et on est quand même content de voir que la mairie est à l'écoute finalement. Hein, cette proposition-là, elle a été faite il y a quelques temps par le CRPEA, finalement elle est arrivée. Alors certes, c'est toujours pas tous les jours et toujours pas vegan, mais en attendant, il y a quand même une avancée et on se rend compte quand même que les politiques prennent en compte ces choses-là.
Est-ce qu'il y a un retour des parents, des enfants sur cette mise en place de... Est-ce qu'on sait ce qu'ils en pensent directement, les utilisateurs, ceux qui mangent à la cantine ou...
En tout cas, moi, pour travailler dans les écoles, je sais que les enfants sont très demandeurs d'avoir des repas végétariens à l'école. Et quand il y en a, c'est vrai que les dames de cantine disent souvent qu'elles sont ravies de voir qu'il y a aussi peu de gaspillage en fait, dans les assiettes. Les enfants sont ravis de découvrir de nouvelles saveurs et des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc ça fait sa place tranquillement.
Oui, Morgane.
Alors moi, je vais parler que pour mon fils. Il a 8 ans et les légumes, c'est toujours un peu compliqué. Je crois qu'on a tous été comme ça. Donc en fait, un repas végétarien à la cantine, c'est pas des brocolis ou des épinards, c'est un repas complet. C'est juste que si les enfants peuvent éviter le ragoût de viande, je crois qu'ils seraient tous contents aussi sur ce point. Donc l'alternative végétarienne, parfois, ça peut sauver des vies. Végétalienne, allons encore plus loin, c'est très bien. Je veux dire, quand je dis ça peut sauver des vies, c'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que les enfants seront ravis de ça. Et en plus... Les animaux le seront également. Vraiment, plus il y a de choix végétariens ou végétaliens, mieux c'est pour tout le monde.
Et vous trouvez du coup qu'il y a un dialogue assez facile quand même avec, avec la mairie de Rennes pour toutes ces questions-là, ou des fois c'est un peu une lutte pour se faire entendre ?
Facile, je ne sais pas. Après, en tout cas, il y a un dialogue qui est posé. Et c'est agréable de voir que la mairie nous recontacte pour qu'on donne nos avis sur sa politique, pour qu'on puisse aussi proposer des projets pour la mairie, qu'on donne notre vision un petit peu autour des questions animales. Et là, il va y avoir les élections. Donc du coup, pareil, nous, on travaille là déjà au sein du collectif pour pouvoir préparer ces élections, pour aller rencontrer les partis, pour voir un petit peu ce qu'ils proposent et pour nous leur proposer des choses quoi, par rapport à tout ça. Donc il y a un dialogue, après ben, il est déjà là, quoi. C'est déjà bien.
Je m'adresse à toi Olivier, parce que dans un post Facebook du 23 mai dernier du CRPEA, dans le cadre des marches pour le climat qui se sont déroulées à Rennes, vous avez invité les participants à intégrer le cortège antispécisme. Alors d'abord, question, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est le spécisme ?
Alors le spécisme, du coup le spécisme, bah, c'est le système dans lequel on vit, c'est un système spéciste. Et le spécisme, précisément, c'est le fait de faire une discrimination basée sur le concept d'espèce. Donc, c'est-à-dire que un chien va avoir moins d'intérêt à vivre qu'un être humain, mais une vache va avoir moins d'intérêt à vivre qu'un chien, etc. Donc ça, c'est le spécisme. Et nous, du coup, on invite les gens à être antispécistes, à s'opposer à cette idée, comme quoi l'espèce serait un critère suffisant pour pouvoir faire une discrimination.
L'idée, c'est de mettre... tout être vivant sur un niveau horizontal un peu.
Oui, au moins au niveau des intérêts de l'intérêt à vivre quoi en fait. Hein, les animaux qui sont sentients, ils ont un intérêt à vivre. Ça c'est un petit peu difficile à remettre en cause. Et à ce titre-là, pourquoi est-ce qu'on leur nierait cet intérêt-là quoi. Voilà. Et ça, donc du coup la position antispéciste, elle va dire on ne peut pas nier cet intérêt-là.
Et alors pourquoi dans le cadre de la marche pour le climat inciter à rejoindre un cortège antispéciste ?
Eh bien parce que l'antispécisme c'est une très bonne solution pour faire changer les problèmes qui sont climatiques. C'est-à-dire que on le sait maintenant, c'est plus trop un secret. L'élevage est quand même responsable à un niveau mondial d'une part importante des productions de gaz à effet de serre. Et on a eu aussi l'année dernière, je crois, ouais, en 2018, un rapport de l'association Grain, une association américaine, qui montrait que les plus gros producteurs de l'industrie agroalimentaire au niveau de la viande et des produits laitiers, s'ils continuaient leur production telle qu'ils sont partis, là, ils seraient responsables de 80% des productions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Sur ce qui est prévu par les accords de Paris, ce qui laisserait plus que tout le petit reste à tout ce qui est du transport ou des énergies, etc. Donc on se rend bien compte que ça pose un problème, la consommation de produits animaux. Donc l'antispécisme qui va dans le sens d'un arrêt de l'exploitation des animaux, ça semble être une plutôt bonne, voire peut-être la meilleure solution pour envisager une amélioration pour le climat.
Aujourd'hui, le soutien de la cause animale et du véganisme se développe de plus en plus. On le voit dans l'opinion, il y a de plus en plus de personnes en tout cas qui s'intéressent et qui essayent de changer les choses, mais il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui continuent notamment à manger de la viande, soit tous les jours ou de moins en moins, mais qui continuent à en consommer. Est-ce que l'idée à terme, c'est d'une population 100% végane ou... Marie ?
Évidemment, l'idée à terme, c'est d'avoir une population 100%, je dirais plutôt antispéciste que végane, mais on est bien conscient aussi que ça ne se fera pas demain, ni même dans 100 ans, je pense, mais on veut au maximum cheminer vers ça, on a les moyens de le faire, donc on essaye de mettre tout en œuvre pour se cheminer vers cet objectif. Je voulais revenir juste tout à l'heure ce que tu disais sur la mairie, parce qu'on a quand même organisé cette Vegan Place main dans la main avec Madame Corinne Lefranc qui travaille à la mairie, qui nous a accompagnés quand même pendant 2 ans, qui a été hyper chouette avec nous, qui nous a très bien accompagnés. Donc c'est effectivement, il y a un dialogue qui se fait, il y a des personnes qui sont intéressées, qui nous tendent la main. Et vraiment pour ça, on remercie parce que c'est pas le cas de partout. Donc je voulais vraiment souligner ça aujourd'hui.
Et si on faisait une petite pause musicale à présent ? Le Rennais Agave est de retour avec un deuxième single aux accents électroniques et pop avec une pointe de groove. Une formule qui nous va parfaitement sur Syllabe. On écoute Agave avec son titre Américaine.
Entendre tous tes mots, viser juste tes blessures. Puisque ton corps si beau, le soleil me murmure. Des fantasmes mélos, accrochés à l'azur. Les planètes là-haut, moi tout seul contre ces murs. Américaine, voiture américaine.
C'était Agave sur Syllabe avec son titre Américaine.
Oh, je reviens. Oh, je reviens. Oh, au nom de Dieu, quelle merveille.
Reprenons, vous êtes toujours sur Syllabe. Nous proposons maintenant à Morgane de l'association Les Petits Korrigans d'en savoir un peu plus.
Alors pourquoi on a besoin d'une association des petits korrigans alors qu'il existe déjà la Société Protectrice des Animaux, la SPA ? Il y avait un besoin sur Rennes ?
Alors en fait, on a créé l'asso des petits korrigans en 2011, donc ça va faire bientôt 9 ans. en janvier 2011, parce qu'une la SPA d'Armor fermait ses portes. C'était un refuge qui se trouvait vers Ifindic. Il fermait ses portes. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. Il y a trop d'animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la publicité de la SPA, qui, c'est une très bonne pub d'ailleurs, qui dit qu'on est les recordman des abandons en Europe, je crois, avec 150 000 abandons chaque année. 150 000, c'est le chiffre de la SPA. Ce sont les animaux qui sont abandonnés en SPA ou en fourrière. Il y en a beaucoup plus. Il y en a vraiment beaucoup plus. Il y a beaucoup d'associations en fait à Rennes et en Ille-et-Vilaine qui fonctionnent comme nous. On n'a pas de refuge ou de structure comme la SPA. On fonctionne uniquement avec des familles d'accueil. C'est-à-dire que souvent dans l'urgence d'ailleurs, on va récupérer un animal donc abandonné ou maltraité comme je vous le disais et on va le placer en famille d'accueil pour qu'il soit non pas dans un refuge, non pas dans une cage, mais dans une famille déjà qui prendra soin de lui et qui pourra éventuellement le soigner, lui apprendre la vie de famille et voilà, et plus tard le faire adopter quand il ira parfaitement bien. Mais voilà, donc il y a toujours besoin. Et si aujourd'hui une nouvelle association de protection animale se crée à Rennes, eh bien tant mieux, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. On a environ 20 abandons d'animaux chaque semaine qui nous sont proposés. On ne peut pas. Ça n'est pas possible. Donc on fait en fonction des urgences, en fonction de la place, en fonction de l'argent. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on n'y arrive pas. Parce que nos animaux sont stérilisés, vaccinés, identifiés, etc. etc. et soignés surtout. Et ça coûte cher. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin de... Je pense que la SPA est très contente que d'autres associations existent. Ils ont un refuge, ils ont les moyens et tant mieux. Sans eux, on ne fonctionnerait pas. Je pense que la SPA, sans les autres associations, ce serait aussi très très compliqué. Voilà.
Du coup, comment ça se passe concrètement? Vous intervenez soit des personnes vous appellent dans le cadre de... je ne sais pas, elles ont retrouvé un animal et là, elles peuvent vous appeler. Ou sinon, vous faites des maraudes pour essayer de retrouver des animaux. Comment ça se passe?
Alors, on ne fait pas de maraudes. On n'a pas besoin. On a suffisamment de travail. Soit des animaux, soit des gens, pardon, nous appellent en disant, voilà, je viens de récupérer... je sais pas, un animal abandonné traîne depuis plusieurs jours dans mon jardin ou je ne sais pas, voilà, on va voir avec. Soit je veux abandonner directement, soit bonjour, je vais tuer mon chien demain si vous venez pas. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est d'ailleurs souvent comme ça. Et là, on s'organise, on est une dizaine dans l'association, on est plus que ça réellement, mais de très actifs et on est une dizaine, un gros groupe à se mobiliser rapidement. On recrute d'ailleurs des personnes très motivées et disponibles sur le long terme si vous le souhaitez. C'était mon petit message. Voilà. Et donc après, on fait en fonction des dons, en fonction des... On est sur Facebook aussi. On voit régulièrement des appels aux dons. On essaye de ne pas saouler les gens. Mais par exemple, samedi, on a récupéré 33 nouveaux animaux de compagnie. Il y avait des souris, des lapins, des cochons d'Inde. C'est pas possible. Et une rate, qu'on a fait opérer aujourd'hui d'ailleurs. J'attends des nouvelles. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaye vraiment de sauver tout le monde. Et quand on peut se permettre, on le fait. Quand on ne peut pas, on renvoie vers d'autres associations. Et en fait, ça n'en finit pas. Donc, on a vraiment besoin de monde. On a vraiment besoin d'argent. Et on essaye vraiment de récupérer quand les gens nous appellent. Ou souvent, ils nous envoient des mails. Mais on a énormément d'appels, en fait. C'est pas possible de tout prendre.
On dit souvent que l'été, c'est la période où il y a le plus d'abandon. Est-ce que vous aussi, dans l'asso, vous remarquez qu'il y a des périodes comme ça où il y a plus d'abandon que d'autres, où c'est vraiment constant que vous avez des appels aussi crus que celui que que tu nous as décrit tout à l'heure?
Ça arrive souvent. Alors l'été, oui, c'est un peu l'enfer. C'est pas vraiment l'été en fait, c'est souvent en juin plutôt, juste avant l'été. Je pense que quand on commence à parler des bagages ou des billets d'avion ou de train, on se dit ah oui, au fait, il y a Titi. Donc voilà, on y pense et on se dit tiens, on va rien faire de lui. Donc il y a aussi Noël et il y a en général, en fait avant toutes les périodes de vacances. Par exemple, avril, c'est très compliqué. À Noël, ça adopte un peu plutôt, mais on sait très bien que les animaux qui sont achetés ou qui, dans des élevages ou dans des animaleries, on les aura quelques mois plus tard, en fait, pour les prochaines vacances. Après, le problème, en parlant réchauffement climatique, c'est que les chattes, aujourd'hui, elles n'ont plus de période de chaleur définie. Donc, en fait, elles font des chatons tout le temps, tout au long de l'année, même en hiver, désormais. Moins, peut-être, mais quand même. Et donc, en fait, c'est l'enfer. Nous, avant, on récupérait très peu de chatons parce qu'on savait qu'il y avait des associations qui le faisaient. On récupérait un peu les cas plus compliqués. Aujourd'hui, on a, je ne sais pas, on a peut-être 40 chatons dans notre association. Ce n'est jamais arrivé. C'est trop, en fait. Et du coup, il y en a tellement partout qu'on n'arrive même plus à faire adopter. Voilà. Là, on a 120 chats actuellement. Notre limite, c'est 80. Donc, n'hésitez pas à nous appeler.
120 chats, par exemple, ou je ne sais combien de chiens, de nacs. Ouais. Tout ça, pour l'instant, tous ces animaux sont chez des particuliers. Exactement. Ou alors chez les membres de l'association.
Alors, les membres de l'association
vous en accueillez un petit
sont
peu
au complet. En général, on essaye de faire famille d'accueil, mais on essaye tout de suite. Je pense qu'on a notre quota. Hein. Moi, j'ai 4 chats. Il y en a un petit peu plus chez certains de nos bénévoles, mais actifs. Mais effectivement, on essaye de placer ça en famille d'accueil. Ouais, exactement.
Pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent devenir famille d'accueil provisoire ou alors famille adoptante ?
Le bonheur. Alors en fait, il suffit de nous envoyer un mail. C'est comme ça en général que ça commence. Donc c'est asso, A2SO, petit, PTITS, Korrigan, KO2RIGANS, @gmail.com. Si vous souhaitez être famille d'accueil ou adoptant, sachez qu'on recherche beaucoup parce qu'on s'occupe également des chats nomades, c'est-à-dire les chats qui sont dehors et qu'on trappe pour stériliser. Parfois, en fait, ils ne sont pas du tout sauvages et ils cherchent aussi une famille. Donc voilà, on essaye d'aider et on cherche vraiment des familles d'accueil sur ce point. Après, les familles d'accueil sont prioritaires sur l'adoption. S'ils veulent adopter directement, n'hésitez pas à aller sur notre forum, sur notre Facebook. Vous avez largement le choix. Et vous pouvez, pareil, nous envoyer un mail pour nous dire « j'ai un coup de cœur pour tel animal » ou « je souhaite être famille d'accueil ». Comment ça se passe ? Vous en faites pas, il y aura quelqu'un pour s'occuper de vous.
Et on pourra aussi vous retrouver samedi, du coup.
Exactement, à la Vegan Place. On aura un stand.
Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau. Je le rappelle, toute cette émission sera à réécouter sur l'antenne de Radio Syllab, sur le site pardon, de Radio Syllab, www.c-lab.fr. Merci Marie, qui, je le rappelle, co-gère l'antenne rennaise de l'association L214.
Merci
d'être venu ce soir.
Merci également Olivier du collectif rennais d'égalité animale, pour l'égalité animale, pardon, le CRPEA, comme ça, voilà.
C'est plus simple.
L'acronyme est plus facile.
Ouais. D'avoir accepté notre invitation, merci.
Ben, merci à vous.
Et enfin, merci à Morgane de l'association des petits Korrigans d'avoir également répondu présent.
Et merci on vous retrouve beaucoup. Tous samedi, place Hoche à Rennes pour cette journée vegan.
Très belle mission. Très agréable.